parlato del caporale e altre cose che tanto non si sia ammettevano per fare quello e la ricattura nel suo porto e dove sta molto dove può stare la ricattura orale e dove può stare la ricattura scritta che sono il suo porto e dove sono il suo porto e lo suo porto cinematico lo che viene a dove mi viene a dire che mi chissà poi mantenere questa tradizione orale di una forma ma fatica che mi piace mantenere con un radio cassetto ora afortunadamente possiamo arrivare a siti di diffondere materiali che antes non potevamo diffondere e molte grazie a voi tre se uno di voi vuole aggiungere qualcosa relacionato con il radio della cabeza mentre parlava con i colleghi della mesa sarà benvenuto le parole
désolé, disons, ben, tout va au boulot, il y en a pas, mais nous, c'est notre fédération qui pense comme ça. Et je ne pense pas pour moi. Moi, je fais le tour des lycées français, des universités françaises, je discute avec les gens, mais je me rends compte que ce que nous considérons comme commun, comme complice, pour eux, au contraire, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le monde est en train de changer. Notre monde à nous est en train de partir au boulot, et les gens vivent dans un autre monde. Ce qui nous fait de la peine, le plus stable pour les autres, façon de voir les choses. Si bien que le débat de ce genre doit être des débats entre les générations. Ils en diront ce qu'ils pensent, nous aussi nous dirons ce que nous pensons, nous discutons et peut-être nous verrons de lumière. Mais quand c'est entre nous, bon, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. C'est assez triste pour nous quand même de voir le monde dans lequel nous avons évolué se détériorer et tomber en miettes. Mais on n'est plus rien, c'est ainsi, le monde change, et les générations futures, les générations qui sont en train de monter, ne nous ressemblent pas du tout. Et je pense que le débat entre les générations est indispensable. Voilà ce qui nous permet de dire quand même aux organisateurs de ces débats-là. Merci.
Personnellement, j'ai un peu travaillé dans la vie de Marocque, surtout au côté des contes populaires racontés par des vieilles femmes. Et ça me dit toujours que ces contes sont déjà presque perdus parce que, après la mort de cette femme, ces contes vont être perdus. Et ces contes étaient un moyen d'expression de l'oppression qui a vécu les femmes. De l'histoire, dans la vie, dans la société. Et je vois que si bien ces contes vont être, et sont en train de mettre des traits par écrit, et il y a une composante assez importante qui se perd, qui est l'expression. On pourra lire un conte sur un récit, on pourra lire un conte dans un livre, mais jamais on pourra entendre. Sentiment d'une personne qui veut s'exprimer et qui, en même temps qui est en train de transmettre une littérature orale, est en train de s'exprimer, elle-même est en train de recréer ses contes de cette manière, comme vous avez bien dit, de lutter contre l'oppression. L'oppression des riches, l'oppression des gouvernements, l'oppression de ceux qui ne veulent pas laisser parler. Merci beaucoup.
finalement.
Del lenguaje oral, de la literatura oral. Creo que se podrán quemar bibliotecas como en la Inquisición de la Iglesia Católica. Creo que se podrán silenciar las letras a las personas que no interesan el poder en la prensa. Es verdad que a veces el poder y la edición van de la mano con la política. Pero creo que hoy ustedes son un testimonio de que efectivamente por encima de esos intereses siempre nos queda la palabra. Cuando Santiago comentaba, nos queda la palabra, ya yo había abierto el poema de Blas Botero que decía: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo al agua, si he perdido la voz, y he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío resultó ser nada. Si he secado la sombra del silencio, yo creo que a todos los que estamos hoy aquí nos queda la palabra. Y muchas gracias por esto.
Muchas gracias. Muy visual, muy rápido. A veces me he dado cuenta incluso que muchos escritores ahora incluso programan que van, no sé, como si programaran que van a ser creativos, como dentro de un año sacaré un libro, sí o sí. Y me he dado cuenta que es como si fuera un tráiler que hacen muchos escritores, como digo, más célebre o más conocido, pero no sé si creen que eso también es un momento para decir. Eso es lo que también se quiere, el ser tan programado, porque a lo mejor para crear una obra cuesta 5, 6, 10 años, no lo piensas antes de crearla.
Sí, quería preguntarle su opinión. Me gustó que tratara el tema de los jóvenes. Creo que se está creando una franja de incomunicación importante en ese sentido, y dentro de 10 años no sé cómo nos entenderemos. Yo hace poco intenté leer un Twitter de mi sobrino, y tiene 25 años, y no entendía nada, y estaba en español. Yo me supongo que en otros idiomas también pasa, que pasará en el francés, que pasará en inglés. Y hasta qué punto la opinión, digamos, de los que estamos más arriba es tolerante en el sentido de vamos a aprender cómo hablan ellos para poder comunicarnos, porque al final la literatura, la lengua, se supone, o mi manera de verlo, es un puente de comunicación entre las personas. Y me gustaría saber qué opinan ustedes, y bueno, me siento muy honrada y feliz de haber escuchado la opinión y lo que han expuesto los que están en la mesa. Gracias.
Hola, muchas gracias a los participantes en la mesa. La verdad es que he escuchado con mucha atención todas las intervenciones. Quería simplemente apuntar, no sé, algún elemento que se puede incorporar al debate también. Creo que el profesor Conaté y el moderador también han hablado de este tema, aunque sea de pasada, que tiene que ver con los nuevos soportes y con las nuevas tecnologías. En mi condición de periodista español que vivo en Senegal, desde hace un año y medio aproximadamente, tuve la oportunidad de asistir bastante de cerca a la utilización de las redes sociales, concreto de Twitter, la compañera acababa de nombrar, y creo que para hablar de herramientas de cambio, al menos no sé si de literatura, pero hablar de herramientas de cambio, creo que es un elemento que tenemos que hablar, ¿no? Y tuve la ocasión, como decía, de asistir a la utilización de Twitter como un elemento clave para el control por parte de la sociedad civil del proceso electoral que se vivió en el mes de febrero y marzo en Senegal, a través de una plataforma que se llamaba Zoom 2012. No tengo muy claro si el Twitter también puede ser un soporte para la literatura. Me gustaría, he leído algunos Twitter, como saben, los Twitter son 140 caracteres, pero estoy convencido de que en 140 caracteres también se puede hacer literatura, y en ese sentido, que conozco no mucho, pero algo la obra de Santiago, creo que él es capaz de hacer literatura en frases muy cortas, en versos muy cortos, y ahí él ha hablado de los versos de Antonio Machado, etc. Estoy convencido de que se puede hacer literatura en 140 caracteres, ¿no? Y me gustaría saber si consideran que en el Twitter o en las nuevas tecnologías, en los nuevos elementos que surgen en la red, aunque a veces se usen lenguajes diferentes o nuevos, también es posible hacer literatura y con ella contribuir al cambio, ¿no?
Casi todos comentando, había quedado con una pregunta al señor Arte, que su intervención dijo, porque en lo virtual perdemos lo específico de cada uno. Entonces me gustaría saber exactamente, pues también con esta pregunta que estamos preguntando, qué quería decir exactamente.
D'accord, merci. Moi, je n'ai pas, dit que le virtuel nous fait perdre notre spécificité. J'ai dit qu'il y a un triomphe du virtuel et le tenant du réel. C'est-à-dire que le virtuel nous transforme en image fuyante, alors que la littérature nous présente comme des êtres figés dans l'histoire ayant une valeur attachée, alors que les virtuels nous traitent comme des images, comme des numéros. Et c'est en ce moment-là que l'utilisation des virtuels a été consacrée au déploiement et justement de notre spécificité en tant qu'être humain. Nous avons perdu notre spécificité en tant qu'être humain par la consacration des virtuels. Et on a effectivement la littérature aussi s'est virtualisée parce que, comme vous l'avez dit, il s'est marchandisé. Les écrivains font des livres pour vivre, pour vendre leurs livres. Et donc, ils produisent autant de romans qu'ils en ont besoin pour vivre, pour réaliser tel projet. Alors que les écrivains d'antan, les anciens écrivains, écrivaient par vocation, ils avaient quelque chose à transmettre avec un semblable. Gustave Flaubert, pour Messe et Mingouin, quand il écrivait pour Tristan de Blas, qui a raconté l'histoire de la guerre en Espagne ici, ce qu'il voulait, ce n'était pas vendre le roman, c'était transmettre aux générations espagnoles, et même à nos autres générations, un message d'humanité, un message de générosité, un message de courage. Et donc, c'est tout à fait différent. La littérature aujourd'hui, les livres aujourd'hui, ils ont entassé de commercialité. Et cette commercialité, vous fait perdre justement sa vocation à devenir un instrument de change. Parce que le message qui véhicule n'est plus l'essentiel. L'essentiel, ce sont plus les prix sur lesquels ils vont être vendus. Je pense que quelqu'un a parlé de Grimmel. Parlant de l'oralité, l'oralité n'était pas de personne seulement, ce n'était pas seulement du maire, de nos maires, c'était aussi une institution. Parce que c'était pourquoi une institution culturelle? Parce que ce sont tels qui transmettaient la tradition, transmettaient la littérature, la légende, la mythologie. La mythologie qui transmet toujours un degré très élevé du manuscrit parce que un certain âge. Elles sont très sages et donc elles se transforment en instrument de sagesse en racontant à leurs petits enfants, en leur transmettant la littérature. Et aussi bien en arabe que tout. Et ça, c'est ce fondamental. Aujourd'hui, les mamies, comme on les appelle, les grand-mères, ne sont plus que des personnes qu'on adore très bien, mais qui ne sont plus une maîtresse, qui ne nous apprennent plus. Parce que nous sommes pris par d'autres, les enfants sont ailleurs. Ils sont justement la proie de ces vertus, la proie de cette vie. Que nous ne les dénonçons pas, parce que nous ne pouvons pas aller à contre-courant, mais que nous devons essayer d'adapter à nos besoins de ce moment, c'est-à-dire à la. De vous les adapter selon notre besoin de conserver, de nous apercevoir à notre littérature qui nous transmet, elle, ce qu'il y a de bon et qui n'est pas l'art du sorcier qui nous transmet aussi bien du bon que du mauvais et qui nous emporte toujours par le mauvais, généralement, plutôt que par le bon. Il y a quelqu'un qui a parlé et qui a bien sature, non pas une sature, il y a un conflit des générations. Chez vous, en Europe, c'est moins grave. Chez nous, en Afrique, c'est plus grave. Moi, j'ai pris le conflit des générations, le conflit entre la génération hamburger et la génération couscous. Parce que mon fils ne mange pas le couscous. Moi, si je ne mange pas le couscous, c'est comme je n'ai pas mangé. Et donc, il y a un conflit des générations, et ce conflit des générations est porteur de valeurs, et donc est porteur de représentativité littéraire qui est tout à fait différente. Alors, moi, je suis pour la musique classique, pour. Un poème. Mon fils n'a pas le temps. Parce qu'il a tout autre chose à faire, parce qu'il est pressé, parce qu'il est pris. Il est en proie à la vitesse qui nous gouverne aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui nous sommes devenus des instruments absolument. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est ce que disait Georges Duhamel, le confort du tout.
Que je suis à Las Palmas, il n'y a pas eu de couscous moi non plus. Et j'avoue que ça me perturbe aussi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que nous parlons des problèmes actuels, l'idéal serait de les mettre dans le cadre de la mondialisation. La mondialisation, c'est synonyme d'uniformisation. Il faut que tout soit uniforme pour que l'argent puisse gagner. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou pas, dans l'avenir, il n'y aura plus de pays. Les frontières vont disparaître. Et ce qui va disparaître surtout, ce sont les couleurs. Il va y avoir un métissage de tous les peuples. Et il n'y aura plus de couleurs, il n'y aura plus de racisme, absolument rien. Et c'est ce qu'il faut pour que l'argent s'impose dans le monde. Les frontières deviennent l'argent. Et tant que l'argent n'aura plus, les frontières n'auront pas disparu, l'argent ne pourra pas arriver plus sur le monde. Et pour y arriver, quelle méthode il faut employer? Il faut s'attaquer aux gens qui constituent un obstacle à cette uniformisation. Et les gens qui réfléchissent, comme les écrivains, comme les philosophes, les autres penseurs, sont des dangers. Et c'est pourquoi il faut faire en sorte que ces gens-là n'existent pas. Et le meilleur moyen, c'est de les banaliser. Comme l'argent domine tout, quelqu'un qui écrit, écrit pour ses pensées, écrit par amour pour les autres, mais de toute façon, on le connaissait, la littérature ne rend pas riche. Ce genre de littérature ne rend plus riche parce que les gens ne sont pas intéressés par ce genre de littérature. Donc petit à petit, l'image de l'écrivain va changer, l'écrivain apparaîtra comme une pauvre type. Tandis que les autres comptent tout, ils ont leur voiture, ils ont leur vie à tout, ben, l'écrivain, lui, vit dans la misère. Et celui qui vit dans la misère dans un monde qui est dominé par l'argent, c'est un monde qui vient. Voilà, on espère que l'écrivain s'en rend compte de plus en plus. Ils sont en train de perdre leur valeur et bientôt ils seront des moins que rien. Et il faut l'admettre. De même que la valeur de la littérature change. Et il y a Internet sur lequel tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire n'importe quoi. Mais dans ce cas, cet écrivain, ça veut dire quoi? Ça ne veut plus rien dire. Si tout le monde peut écrire n'importe quoi, ça veut dire qu'être écrivain, penser, ça ne veut absolument plus rien dire. Mais c'est un processus qui est en cours. C'est un processus qui est en cours. Et malheureusement, on ne voit pas quel moyen on peut disposer pour. Essayer de mettre fin à ce processus ou à rien, ce processus, ça va être extrêmement difficile. Quant aux jeunes, il y a un conflit de génération, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Les jeunes ont une autre façon de penser. Quand un jeune a son jouet électronique, mais il est replié sur lui-même, il dit autrement que nous n'avons pas vécu cela, nous ne savons pas. Eux, ils se coupent du monde. Pour se contacter, ils ont des SMS. Ils n'ont pas besoin de se côtoyer, ils n'ont pas besoin de salaire humain, c'est fini. Il n'y a pas de salaire humain, ils peuvent se contacter rien que par SMS. Donc, et puis, on leur dit de ne pas réfléchir, il ne faut pas faire d'efforts. L'électronique donne tout, ils ne font pas d'efforts. Donc, nous autres, pour eux, nous sommes des primitifs. Moi, j'étais choqué au départ quand ma fille lisait mon livre, mais vous, mon papa, vraiment, qui est vieux. Moi, j'ai dit, ben, je suis vieux, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle dit, à ma petite, jamais tu dis ça. Tu me dis ça en Afrique, je suis vieux, tu vas voir. Elle dit, non, mon papa, tu écris pour les vieux, ça, c'est pas pour les jeunes. Tout simplement parce que la littérature classique disparaît et les jeunes n'aiment plus que les science-fiction, la fantaisie, etc. Donc, c'est autre chose dans laquelle on ne réfléchit pas. C'est pas eux, ils veulent s'amuser, hein, ils veulent se distraire et apprendre mécaniquement, ils ne veulent rien d'autre. Donc, est-ce que nous allons nous entendre, eux et nous? Bon, je crois qu'il faut que nous soyons un peu plus sages. Notre monde est en train de disparaître, on n'y peut rien. C'est leur monde, ce sont eux qui règnent, on n'y peut absolument rien. C'est un nouveau monde qui se profile. Et nous en sommes conscients, ça nous blesse, ça nous fait mal, mais on n'y peut rien. C'est leur monde, qu'est-ce qu'ils seront eux-mêmes? Ils sont programmés. Hein, ce sont des êtres programmés pour être ce qu'ils sont. Et bien, ça va être le monde, l'humanité va être un troupeau, un immense troupeau de moutons. Ce qui arrive quand on empêche notre humain de réfléchir, ben, il devient un animal, il devient un mouton. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y aura donc les risques qui régneront sur un troupeau de moutons. Et ces jeunes-là sont en train de devenir ce troupeau de moutons. Donc nous n'y pouvons malheureusement rien. Je le dis encore, on me dit que je suis pessimiste, mais il faut voir la réalité en face. Ça blesse, ça fait mal, mais la réalité est la réalité. Hein. Le monde évolue, ben, on n'y peut absolument rien. Voilà ce que moi je peux dire. Bon,
gracias otra vez a los intervinientes, a perdón, Santiago. Se estaba viendo hacer de esto por allá afuera.
Bueno, mira, a ver, ya se ve. Ahora me he hecho luchar con tal lucha que trae el libro de la información de los libros, sobre todo a otro libro, ¿no? Hay formas de quemar, de la literatura, no solo quemando libros, se encienden de muchas maneras. Por ejemplo, ayer una protesta en la biblioteca pública aquí de Las Palmas, porque han Canarias ha puesto 0 euros a la partida de compra de libros, periódicos y revistas para el próximo año. No puedo comprar absolutamente nada. Es una forma de incendiar. No se trata de sacarlo con los brazos y hacer una vida. Hacer una gran vida y quemarlo, sino de forma sutil de quemar los libros, de quemar la cultura. La realidad tanto es clave. Y no me había olvidado de la música, de lo que suponían las canciones, las canciones infantiles que nos faltaban, lo que nos faltaban en las historias. El poema que citaron aquí nos queda la palabra, por ejemplo, y yo amigo, buscarlo a la palabra escrita, pero me llevo por la guerra del comedio musical, no me queda la palabra. La importancia de la parte de la música, la música está todavía viva y tiene mucho que decir y mucho que cruzarse con la literatura. Los libros anuales, los libros programados, no son más que parte del mercado agresivo que estamos viviendo. Para los editores de parte de la ciudad, no tiene nada, prácticamente nada de esos libros que se han ganado. Lo que pasa es que si no puede desaparecer, y los libros, como antes que duraba un mes, 2 meses, se reeditaban, estaban en la mesa de la librería, es que viene una ola más grande que otra y va arrasando todos los libros y cada vez aguantan menos, ya tienen tiempo de llegar al lector, ¿no? Sin campaña mediática aparece algún libro que eventualmente se convierte en un becerro, también se lo come la propia voracidad del sistema. Yo creo que es un sistema que ha causado muerte y ahora que tenemos otra cosa, de momento no está, como todo, como ahora el periodismo, se está yo ya, con lo de los jóvenes, yo soy muy optimista con los jóvenes, tremendamente optimista, porque soy muy optimista. He visitado, por lo menos aquí en Canarias, he visitado el instituto el año pasado y este año, durante el paso de por muchos de ellos, y me encontré una generación preparada, lectora, paradójicamente mucho más lectora que la mía, con la anterior, y comprometida con su mundo, que es su mundo, que es nuestro mundo, que es el mundo que van a inventar ellos. Ellos tienen la gama para inventarlo, ¿no? Porque a la hora de combinar el equipo para mí tiene una gama impresionante. Periodísticamente y literariamente. Porque creo, como dije al principio, que contar se puede contar en lo más breve, ¿no? siempre vuelvo a citar a Kafka, que decía que escribir es buscar entre sombras, que buscar entre sombras, plantear, entrar en una dirección oscura. Y cuando vas escribiendo, no sabes qué va a terminar exactamente. Pero yo creo que en este momento la lectura futura también va a ser la búsqueda entre sombras. Iremos planteando, nos iremos equivocando, iremos pensando que historias virtuales. Y con el tiempo será el propio sistema o la propia sociedad la que termine dando con las nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Con las nuevas formas de expresarnos a través de la palabra. Pero sí creo muy importante, para mí lo más importante quizás, y es lo que saco conclusión de las palabras de la noche de la mesa, habiendo aparecido como abuelas en la vida, yo creo que es muy importante que nosotros seamos las abuelas de los nietos y de los hijos. Sirva como herramienta de cambio para que no muera, ¿no? Ser más abuela y dejar que ellos intenten otras formas y nosotros aceptar esas formas con la misma realidad que nuestras abuelas necesitamos que tenemos que contar. Las abuelas cuando la tenían con los pequeños ordenadores o incluso con adivinar los periódicos nacionales que tenían antes, o la nueva, o nuestra jerga, porque la última vez que no tenían nuestros padres y nuestros abuelos, también tuvieron que adaptarse y terminaron entendiendo. Nosotros tenemos que terminar entendiendo a la gente que venga. Son ellos los que van a contar, ¿no? No se les puede poner puertas de mano, ¿no? Que eso va camino de. Lo que pasa es que sí es cierto que es lo que decía el profesor Morato en ese momento, el desprestigio de quien crea, ¿no? De que todo trate, de que todo se pueda hacer, de que la información no hay que pagarla, ni hay que pagar remunerar de alguna manera quien escribe, ¿no? Que escribe. Yo escribiría gratuitamente, estaría encantado porque me quieren que te lean, porque quieren siempre que te lean, porque tengo que comer el pan, no hay protesta, y tienes que hacer frente a pago. Entonces, si realmente queremos disfrutar de la palabra y sobre todo de la información rigurosa y cierta, tenemos que pagarlo de alguna manera. Es decir, es una falta de televisión. Se buscarán nuevos métodos, nuevos medios. Se pagará de forma directa, se pagará de forma indirecta, se pagará por publicidad, se pagará. Es esa búsqueda, ese tanteo de sombra que estamos viviendo. Y también con la literatura pasa igual, todo el mundo es escritor, pero al final tendrá que haber un escritor, una crítica, ¿no? Una crítica. Posiblemente surgirán editoriales potentes en Internet que hagan esa crítica, que tú sabes igual que si vas a la grama o vas a determinadas editoriales y dices, bueno, todo lo que publico esta gente más o menos tiene cierto rigor porque me puede gustar más o menos, pero sé que mantienen una línea, ¿no? Pues yo creo que en el futuro en Internet terminará surgiendo eso. Mientras, es un totum revolutum un poco peligroso, pero no seremos posiblemente nosotros, sino los que vengan por nosotros los que lo ordenen, ¿no? Y eso sí va a estar optimista. Y creo que por primera vez en la historia de la humanidad desaparecen, como decía, nuestras fronteras. Y eso es lo más importante. Desaparecen las fronteras. Y a partir de ahí, entre todos, tenemos un bandazo y un proceso que pueda haber. Pero todos caminando hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces es la gran ventaja o la gran fuerza que puede tener la virtualidad, la universalidad, quisiera acabar con ese mensaje optimista dentro de lo que significa el mundo, ¿no? Me dice que optimista de información. Pero creo que los jóvenes son los que van a cambiar esto y que nosotros tenemos que ser sus abuelas de alguna manera. También, no solo con lo oral, sino lo que decían también hace un momento, si nosotros no transmitimos quién fue Master Cruz, quién fue Robert, quién fue Walt Whitman y quién fue Pérez Galdós, se van a quedar colgados porque no van a escribir Twitter ellos ni van a escribir Facebook ni van a estar en la red. Somos nosotros los que tenemos que escribir el nombre de ellos y llevarlo a la otra generación como nosotros no podemos escribir.
En votre nom et au nom de toute ma génération, je remercie M. Santiago de nous rassurer et je demande s'il a raison ou si c'est parce qu'il est beaucoup plus jeune que nous.